Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Qu'est-ce qui se passe dans le monde du cloud ou du DevOps en ce mois de février 2022? Des problèmes d'adoption DevOps, toujours et encore des fuites de données, une coupure de 73 heures chez Roblox ou encore l'effondrement. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti!
Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Actu DevOps, ton émission de veille cloud DevOps mensuelle. Ça devient une habitude maintenant, mais reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les outils que l'on t'a dégotés. Mais avant de commencer, tu le sais, on est dans un podcast, on est aussi sur YouTube. La première chose que j'ai à te rappeler, c'est abonne-toi au podcast pour ne pas rater les épisodes et surtout à la chaîne YouTube parce qu'il y a plein de choses qui se préparent, y compris des lives, puisqu'on va faire un live tous les mois, le premier vendredi de chaque mois à 17h, et notamment René va co-animer un live et préparer un live tous les deux mois avec moi. Tu peux aussi activer la cloche, et je te dis de t'abonner parce que on a remarqué, en tout cas les stats me disent que plus de 40%, enfin presque 40%, pas plus, mais presque 40% des personnes qui regardent la vidéo ne sont pas abonnées. Apparemment, tous les vidéastes le disent, c'est que ça doit être une grande chose. La deuxième chose que j'ai à te dire, et je le rappelle parce que c'est bien de le rappeler, ce podcast, il est en Creative Commons, en licence libre. Tu peux le partager, le découper, l'utiliser si tu veux. Il suffit juste de nous créditer. Alors, dans cette émission, avec moi, il y a Damir. Bonsoir, Damir.
Bonsoir ou bonjour à vous.
Il y a aussi Mathieu, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment.
Bonsoir, bonsoir
Mathieu. Et enfin, et non des moindres, René. Bonsoir, René.
Bonsoir ou bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors, si tu veux en savoir plus sur nous, je t'encourage à écouter nos entrevues parce que chacun d'entre nous a une entrevue sur le podcast. Si tu arrives récemment, ça fait un moment qu'elles ont été publiées. Donc, il y a une entrevue par podcasteur. Tu trouveras les liens en description. Il faut aller chercher parmi la pléthore de liens que je mets à chaque fois dans les descriptions. Et on va commencer par une petite news de Damir. On va encore parler d'une fuite de données parce que ça commence à devenir une habitude.
Effectivement, on va parler des données qui font pchit, hein, le fameux. Donc c'est quand même un incident, un des plus classiques duquel on va parler. Donc la multinationale Securitas a été victime d'une fuite de données assez importante. Hein. Il y a quand même, on parle de 3 terabytes de données qui ont été perdues, entre guillemets, de moins exposées publiquement, et ils contenaient des données personnelles assez sensibles. Donc on parle notamment de cartes d'identité, de photos personnelles, d'employés de la société. Donc c'est quand même pas les données, on va dire, les moins sensibles qui existent, au contraire. Et cet incident, bah, des plus classiques en fait, est dû à une erreur de configuration d'un bucket S3 qui a été configuré en public sur le service S3 d'Amazon, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, permet d'exposer des fichiers sous forme d'objets. Mais là où c'est intéressant en fait cette news, c'est pas tellement en fait cette partie technique parce que c'est assez courant. Moi, ce qui m'a interloqué, c'est plus la partie un peu putaclic, si j'ose dire, un peu vulgairement, qui a été utilisée pour traiter l'événement. Et on peut notamment lire dans les titres des articles qui ont traité ce problème, dont bien sûr, dont le lien sera disponible en commentaire. Je vous traduis: un serveur AWS non sécurisé a exposé 3 terabytes de données personnel d'employés. Donc, on voit quand même que l'entreprise, en tout cas fautif qu'on met en avant, ça reste AWS. Donc, c'est bien beau de se cacher derrière le provider cloud, mais ici, l'erreur vient pas d'AWS, elle vient de la personne qui a mal configuré, en tout cas de l'entreprise qui a permis qu'un service soit mal configuré, donc de la société qui est utilisatrice et qui l'a mis en place ou qui le maintient. Donc, loin de moi l'idée de faire du blame dans cette histoire. Mais il faudrait quand même que les entreprises puissent assumer en fait et tirer des leçons de ses erreurs pour qu'elles puissent s'améliorer, pour qu'elles puissent comprendre là où ils ont fait une erreur, plutôt que se cacher en fait derrière AWS ou derrière autre sous couvert de bashing un peu gratuit. On sait que c'est simple de faire du bashing sur AWS. Avec OVH, c'était un peu la même chose. Avec l'incendie, c'était la faute des entreprises pour la plupart qui n'avaient pas mis, on va dire, en place de redondance ou qui avaient un peu ignoré ce problème. Et au final, on se retrouve à blame en fait le provider qui lui derrière a fait son taf mais peut pas des fois faire plus. Donc là, on se retrouve nouveau dans ce cas-là qui est un peu trop régulier, on va dire, jusqu'à l'heure actuelle. Et surtout que là, dans ce cas, AWS, objectivement, ceux qui apportent le plus de solutions de sécurité pour éviter ce type de cas. Donc, partant de ça, je vais vous donner quand même quelques pistes d'amélioration, parce qu'on est aussi là pour ça, vous donner des voies de réflexion. Et je me suis dit que pour ce cas-là, je vais vous donner trois points, trois axes qui vont vous permettre d'améliorer votre solution d'object storage et d'éviter ce genre de problème. Donc, il y aura certaines solutions assez génériques, d'autres qui sont un peu plus orientées à AWS. Donc, dans ces idées, la première, ce serait de simplement de passer uniquement par l'infrastructure as code et d'avoir au minimum des coding reviews, donc une deuxième personne qui va check, ça éviterait des erreurs de ce type potentiellement, et surtout, ça permettrait en fait de mettre derrière des tests automatisés, notamment des tests de conformité dans la CI. Donc du coup, afin de pouvoir vérifier si par exemple quelqu'un ouvre un bucket au monde entier, avoir une petite alerte, ou si quelqu'un ouvre un security group, donc un groupe, un firewall, au monde entier, pareil, avoir une alerte. Donc ça serait des premiers axes d'amélioration. Un deuxième axe d'amélioration, ça serait tout simplement de empêcher les gens de créer des objets ou des buckets publics dans les comptes de production, à part un compte qui serait réservé potentiellement à l'exposition d'assets. Mais en tout cas, l'idée derrière serait en fait d'empêcher aux gens de faire cette erreur tout simplement. AWS fournit la possibilité de bloquer l'exposition publique au niveau de l'account et d'autres cloud fournisseurs fournissent sûrement des choses assez similaires. Et la dernière, c'est d'utiliser des outils d'alerting en conformité. Donc AWS, il y a un service qui s'appelle GuardDuty qui permet d'être alerté en fonction de certaines règles, notamment des règles d'exposition. Et vous avez d'autres outils, on va dire, je vous mettrai le lien dans la description, il faut juste que je retrouve le nom, qui vont vous permettre de faire ça sur plusieurs clouds et de vérifier en permanence que vos règles de sécurité ne sont pas trop ouvertes et qu'elles respectent un ensemble, on va dire, de critères préétablis, notamment vous pouvez établir avec vos équipes de sécurité. Donc ça, c'est trois axes d'amélioration en fait qui auraient pu être bien utiles à cette entreprise plutôt que faire du blame, en tout cas sur AWS, même si après on ne sait pas si c'est l'entreprise aussi ou les journaux qui sont des fois un peu qui ont tendance à faciliter les clics, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je préférerais vous donner trois axes d'amélioration plutôt que passer trop de temps sur est-ce que c'est grave ou pas. C'est évidemment grave, une fuite de données personnelles, mais du coup ça me semblait intéressant de revenir là-dessus. Bref, je suppose que nos auditeurs ont plein d'idées d'axes d'amélioration et je vous invite à les partager avec nous en commentaire et je vais laisser du coup à mes camarades, en commençant par Mathieu, me dire si eux ils voient encore déjà ce qu'ils pensent de cette affaire et surtout s'ils ont d'autres axes qu'ils voient qui seraient importants.
Non, mais je pense que tu as tout dit, c'est jamais de la faute du provider parce que finalement le provider il fournit un service et c'est à l'utilisateur ensuite de l'utiliser correctement. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit, beaucoup de gens se cachent derrière les cloud providers quand il y a des erreurs de fait. Après, des erreurs, ça peut arriver chez tout le monde, hein, mais même là, c'est quand même une grosse erreur. Et sur les outils, tu as un peu tout dit, hein, je veux dire, les reviews, enfin l'infrastructure as code, les outils pour détecter les failles, etc. Je n'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Mais là, on parle peut-être si, là, on parle d'S3, mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent aussi sur d'autres types de services. Comme tu dis, c'est un gros classique des bases de données ouvertes sur Internet. Donc, chez Amazon, ça peut être RDS. D'ailleurs, je crois qu'il y a une news aussi comme ça récemment qui était sortie avec je ne sais plus encore combien de bases exposées sur Internet. Elastic avait eu un souci comme ça parce que par défaut, il n'y avait pas d'autant, il me semble. Donc, il y avait je ne sais plus combien de clusters exposés sur Internet. Donc, c'est vraiment un gros classique. Et voilà. Et malheureusement, je pense qu'on continuera de le voir. Mais c'est juste qu'il faut faire attention et c'est tout, quoi. Finalement, c'est. Faut faire gaffe, et même si des erreurs ça arrive, j'ai rien d'autre à rajouter, et je pense que ça continuera d'arriver, je veux dire, c'est des choses qu'on verra régulièrement. Je pense pas que ça s'arrêtera, il y aura toujours des erreurs.
L'erreur est humaine, et comme tu disais, Elasticsearch, c'est un gros classique, même à l'époque du on-premise, par défaut, il n'y a pas d'authentification sur l'API, Elasticsearch, l'API, donc du coup, c'est exposition, on va dire, sans filtre, et il y avait énormément de cas de fuite de données, même à l'époque, sur des infra OVH et de sa cliente, hein. C'est un gros classique. Mais ça me semblait pas déconnant de repasser dessus. Je ne sais pas si René ou Christophe, vous avez d'autres choses à ajouter.
Ouais, je voudrais ajouter quelques petites choses. Bah, la première chose, c'est que, enfin, je sais pas quel est l'objectif, mais si c'est de discréditer AWS, bah, je trouve ça pas terrible parce que pour le coup, on voit que c'est pas un problème chez AWS, donc c'est vraiment contre-productif. Voilà, pour ceux qui n'aiment pas AWS, c'est pas forcément la bonne manière de souligner certains problèmes qu'ils pourraient avoir parce que dans ce cas-là, ça vient pas d'eux. Et l'autre chose, c'est pour ajouter un petit peu à ce que tu as dit juste avant, il y a nos amis et podcasteurs de No Limit Sécu qui ont fait un épisode sur l'infrastructure as code et aussi et donc avec une orientation sécurité. Ils partagent aussi pas mal d'outils d'audit justement de configuration AWS, etc. etc. Et donc ben j'encourage à aller écouter ce podcast parce qu'il est plutôt bien. Et ben, il sera disponible dans les notes du podcast.
Merci René. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je pense qu'Amazon Web Services n'a pas besoin de ça pour qu'on se rende compte à quel point c'est une entreprise néfaste et donc ça ne sert à rien d'être malhonnête. Et autant, en fait, il faut quand même mettre en place nos bonnes pratiques chez nous, comme le disait Damir. Donc, bon, je vous avais presque tout dit, donc je vois pas grand-chose à ajouter. Du coup, je vais passer à la suite pour le coup. Alors, hop, moi, je ne vais pas vous parler, je vais vous parler plutôt d'adoption DevOps et de promesses non tenues. Et c'est un post LinkedIn de Stéphane Robert qui a attiré mon attention. Il nous parle en fait d'un article de ICT Journal sur les entreprises suisses qui peinent à mettre en œuvre les pratiques DevOps. On apprend dans cet article que, selon le rapport Trend and Benchmark 2022 de SwissQ, que l'introduction des pratiques DevOps dans les entreprises suisses n'est pas une sinécure. Il faut savoir en fait que plus de 250 professionnels occupant diverses fonctions en IT ont participé justement à cette enquête. Et les chiffres intéressants sont les suivants. En fait, pour 44% des répondants, la mise en œuvre du DevOps prend plus de temps que prévu. Pour un tiers d'entre eux, la mise en place du DevOps est compliquée et seuls 20% des participants estiment finalement que les bénéfices attendus sont au rendez-vous. Alors, par rapport à 2020, ils sont beaucoup moins enthousiastes sur les bénéfices constatés et l'article nous apprend aussi qu'ils ont mis en place donc des tests de charge, de performance, de sécurité dans leur développement, mais aussi du test en continu. Ils abordent le test drive development, mais aussi le pair programming ou la programmation par pair. Mais c'est surtout, en fait, selon moi, des pratiques de développement qui sont plus de l'ordre de l'agilité et de l'artisanat logiciel que du DevOps, qui va beaucoup plus loin que ça. Mais revenons-en au poste de Stéphane. Il y dit et il pense que c'est un problème de culture. Il pointe le fait que l'on embauche des compétences DevOps. Vous savez, ces fameux ingénieurs DevOps qui. Ces fameux ingénieurs DevOps que. Qui alors, excusez-moi. Mais en fait, on fonctionne toujours comme avant avec des belles cloisons dev et ops. Pour approfondir le sujet, je te renvoie sur l'épisode de podcast L'ingénieur DevOps, Mythe ou réalité, qui est notre premier épisode. Je te mets le lien en description. Il dit aussi à juste titre que le DevOps, c'est pas magique. En fait, il estime que si on ne se donne pas les moyens, on n'y arrive pas, chose avec laquelle je suis parfaitement d'accord. D'habitude, en fait, je parle de ce genre d'article dans la trouée du vendredi, mais là, je trouve que c'était un sujet intéressant pour justement avoir votre avis sur le sujet de la transition DevOps, pas forcément que sur cet article-là, mais de manière générale, et puis aussi avoir votre sentiment sur cet article-là. C'est quoi finalement, selon vous, qui peut expliquer ce désaveu du DevOps, vu de ce côté-là?
Je peux commencer peut-être. Moi, ce qui me gêne toujours dans ce genre d'article, c'est qu'on parle du DevOps comme, je sais pas, quelque chose d'un peu abstrait. Par exemple, on met en place le DevOps, c'est compliqué le DevOps, mais ça veut plus rien dire. C'est comme les entreprises qui disent on va se numériser ou je sais pas. C'est un peu un terme fourre-tout. Et en plus, comme tu l'as dit, ça parle beaucoup plus de pratiques ou de points de détail. Donc, déploiement continu, TDD, et pas vraiment en effet de communication, manière de travailler, etc. Et pour moi, les difficultés, bah, elles viennent finalement de ça, c'est que c'est des entreprises peut-être qui essayent d'appliquer des recettes toutes faites avec, comme tu as dit, peut-être des consultants extérieurs qui vont, ou des ingénieurs, comme tu dis, DevOps, mais avec toujours beaucoup de silos, qui vont juste essayer, en fait, pour moi, d'appliquer des choses et plus vraiment réfléchir automatisation, comme tu l'as dit, et pas DevOps, enfin, et pas communication. C'est un peu, c'est le DevOps, c'est pas j'automatise, je fais de l'automatisation, c'est pas que ça du moins. Et aujourd'hui, enfin, moi derrière le thème DevOps, en fait, aujourd'hui, il a plus trop de sens, surtout dans ce genre de contexte. Quand je dis ça, je vois vraiment le type, enfin le type d'entreprise, style grand groupe, on va faire du DevOps, et puis au final, ça fait un peu n'importe quoi. Enfin, j'avais connu ça, et c'est pour moi, c'est ça, c'est vraiment, enfin, ces entreprises-là ont besoin aussi de vraiment comprendre c'est quoi. Casser les silos, souvent c'est des entreprises aussi avec des hiérarchies très compliquées, donc des équipes vont être très en avance et d'autres vont au contraire freiner pour ne pas, on va dire, pour rester dans le monde d'avant. Donc c'est des problématiques complexes, mais souvent ça vient de problèmes internes avant tout. C'est ça en fait, c'est des organisations qui essayent d'apporter de nouvelles choses mais qui n'arrivent pas à vraiment se remettre en question.
Moi je pense que tu as dit pas mal de choses sur lesquelles je suis totalement aligné. Et il faudrait d'abord définir, ça aurait été intéressant je pense de faire une étude sur définir ce qu'est le DevOps pour ça que chacune de ces personnes et comment ils ont mis en place enfin un truc, un rétexte on va dire plus poussé là-dessus. Et pour le, moi c'est pour le côté le temps que ça met à être mis en place, ça je pense c'est quelque chose qui est bien plus compliqué que ce qu'on veut bien croire, parce qu'au-delà de la technique qui peut être fait rapidement hein, c'est comme tout hein, on peut prioriser ça. Ben, il y a toute une idée d'acculturation, on va dire, et d'organisation qui, elle, va mettre du temps en entreprise à changer et avoir des autres réflexes. Donc, c'est normal que la mise en place, si on passe de quelque chose de ultra classique à du DevOps, prenne du temps. Mais il y a une grosse confusion en ce moment et je pense que c'est dû à l'effervescence d'outils, notamment d'outils transverses et de choses qui ont un peu à voir avec les différentes bonnes pratiques, que ça soit du craftsmanship niveau dev, que ça soit du DevOps. Il y a plein de trucs qui sont un peu à mi-chemin entre les deux ou qui rentrent un peu dans les deux. Et ça, excusez-moi, ça facilite pas du tout la compréhension. Moi, je me rappelle il y a quelques années déjà. Excusez-moi. J'avais été dans une ESN, dans laquelle, en fait, les personnes qui étaient technico-commerciales / commerciaux ne comprenaient pas vraiment à quoi correspondait le DevOps. J'avais fait un peu d'acculturation pour leur expliquer, etc., et qu'ils puissent du coup mieux comprendre les besoins clients. Et c'était ultra compliqué en fait d'expliquer, parce qu'ils disaient, bah, quand on parle de cette techno, par exemple, c'est une techno qu'on nous demande quand la personne veut une approche DevOps, c'est une techno qu'une personne nous demande quand elle veut avoir telle approche ou tel profil. Donc c'est très compliqué à comprendre, surtout quand il s'agit de... Déjà, pour nous, tech, c'est très difficile, et pour beaucoup, c'est encore plus difficile. Donc, j'imagine pas que côté dirigeant et avoir vision, c'est encore pire.
Ouais, pas forcément grand chose à rajouter. Après, je pense que le premier point, c'est effectivement déjà aussi d'expliquer, quoi. Si tu veux vraiment louper la cible, c'est tu peu importe ce que c'est, hein, que ce soit du TD, n'importe quoi, si c'est amené comme ça, sans forcément expliquer à quoi ça va servir, même si c'est bien, ça peut être vécu comme quelque chose qui est imposé, donc du coup ça va pas du tout marcher. Ben voilà, je pense que pour foirer, c'est la meilleure méthode. Et puis oui, après, il faut effectivement que aussi ce soit en termes de management, que ce soit compris, quel est l'intérêt, etc. Et effectivement, si c'est amené en, juste avec l'axe technique en disant on va poser n'importe quel que soit l'outil, ouais, ça va pas fonctionner.
En effet, le problème pour moi vient souvent du management, tu l'as dit, parce que beaucoup d'équipes, de managers ont peur, en fait, pour moi, j'ai déjà vu, finalement de perdre du pouvoir entre guillemets avec le DevOps, c'est-à-dire ils ont un peu une chasse gardée, voilà, c'est chez eux, c'est leur domaine, je sais pas, par exemple l'infra, c'est mon équipe, et puis personne n'a son mot à dire dessus, etc. Et quand on commence à parler avec les autres, il y a une ouverture, et c'est oula, si j'ouvre trop, les gens ils vont être un peu trop autonomes, donc ils auront moins besoin que moi, c'est-à-dire je serai moins chez, c'est parce que voilà, ils seront plus obligés de passer par moi pour faire des actions sur la prod, par exemple. En cas de déploiement, par exemple, on en parlera tout à l'heure, ou bien ces personnes-là, elles vont m'embêter plus souvent, et puis voilà. Enfin, il y a des gens, ils mettent des murs entre les équipes volontairement, en fait. C'est-à-dire, et ils ont peur ensuite. Même l'automatisation, c'est vu comme une menace par certaines équipes. Elles se disent, oula, mon travail que je fais manuellement, je vais plus le faire. Il va être automatisé. Qu'est-ce que je vais faire de mes équipes? Enfin bref, c'est vraiment une question, en effet, de les managers. C'est parfois eux qui bloquent complètement parce qu'ils ont peur de perdre du pouvoir, en fait.
Bah, t'as aussi certaines équipes tech où j'ai déjà vu le cas, ils ont peur de perdre en fait tout simplement leur connaissance, entre guillemets, parce que si on change toute la stack, j'ai déjà vu des équipes, notamment des équipes un peu âgées, entre guillemets, où ça faisait 10, 15 ans qu'ils étaient dans l'entreprise, bah, quand on leur dit, il faudrait peut-être changer ça, ça remet aussi en question un gros socle de compétences, et ça les inquiète aussi, ce qui est normal, hein, et c'est pas simple, on va dire, d'apprendre un tas de nouvelles choses, et surtout, de nouvelles choses, surtout quand il y a des changements de paradigme et des choses comme ça. Donc, je pense que ça augmente aussi l'inquiétude, donc il y a un gros enjeu, d'explication, mais aussi de formation, je pense, des équipes sur les technos.
Après, ça reste un changement, donc c'est jamais simple, et d'autant plus, je pense, si c'est des entreprises qui ont un petit peu vécu, souvent, il y a quand même eu pendant de nombreuses années une volonté de siloter les équipes, et là, quelque part, avec le DevOps, on arrive avec limite l'inverse, quoi, et du coup, je pense que c'est compliqué, quoi, donc... Ouais, ça peut s'expliquer si les entreprises sont aussi un petit peu en historique assez important.
Ouais, alors moi, il y a plusieurs choses qui m'ont perturbé. Et j'ai pas pu aller plus loin. Malheureusement, j'ai pas pu aller voir le rapport parce qu'il est en allemand. C'est du suisse-allemand. Donc, je l'ai pas téléchargé en fait, puisque toute la page est en allemand. Je me suis dit, bon, c'est bon, je vais pas comprendre. Si vous êtes intéressé et que vous parlez suisse allemand, vous pouvez aller voir. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes dedans. En plus, il y a une vidéo de présentation, j'ai vu. Mais pareil, c'est de l'allemand, donc j'ai pas suivi. Mais pour moi, dans l'article, en tout cas, que j'ai vu, a priori, il y a probablement un défaut d'accompagnement, que ce soit de consultant ou de mentor externe, probablement qu'il y a un truc là-dessus. Et comme vous l'avez dit, et ce qu'on constate régulièrement, il y a un trop gros focus sur l'automatisation. Et même là encore, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un focus sur l'automatisation parce qu'il ne parlait même pas de déploiement continu, il ne parlait vraiment que de tests, d'intégration, etc. Donc, je pense qu'il manque des choses. Il y a notamment tous les autres piliers Calms, la culture, le Lean, la mesure, etc. Ils n'en parlent pas. Donc, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui entourent le DevOps qui n'ont pas probablement été mis en place, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Il n'y a a priori pas de partage de culture entre les membres d'une entreprise, voire entre les entreprises entre elles, parce qu'on peut aussi partager entre entreprises. Et de ce que je ressens de l'article, ils jugent le DevOps en mettant en place le software craftsmanship. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris, hein. C'est pas ce qui est dit, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, je suis un peu perplexe pour le coup. Mais notamment, le désaveu global du DevOps qu'on peut entendre chez certaines entreprises, pour moi, il s'explique par le fait, en effet, comme vous l'avez dit, c'est souvent que l'automatisation qui est mise en place. Et moi, je le vois chez certains clients qui me prennent de la prestation et pas de l'accompagnement ou du mentorat. Et quand j'arrive chez eux, je leur dis, attendez, il vous faut quand même une couche d'état d'esprit dans vos équipes, etc. On va pas juste mettre en place la CICD tout seul, etc. Et ils me disent souvent, oui, mais on n'est pas encore prêt et tout. Alors que pour moi, c'est un fondement avant de passer à la suite. Bon, je suis assez perplexe.
Il y a un autre point juste sur lequel je rebondis rapidement que tu as soulevé, c'est qu'ils disent qu'ils sont assez déçus par les résultats qu'ils attendaient. J'ai remarqué aussi autre chose, c'est que souvent avant le DevOps, tout ce qui était release, etc., c'était quelque chose d'assez manuel, assez, on va dire, fait, le dev ping sur le ChainOps et dit tu veux déployer, etc. Donc du coup, il y a très peu des fois de métriques en fait à comparer sur l'avant et sur l'après pour savoir combien de temps on fait une livraison, en combien de temps ça met pour aller en prod, des choses comme ça. Donc c'est important aussi côté décideur, quand on met des démarches comme ça en place, d'essayer d'avoir des KPI, des métriques en fait. Sur le fonctionnement actuel pour le comparer au fonctionnement après qu'on ait mis en place des outils, des démarches, etc. Parce que c'est sûr que si on n'a rien pour lequel comparer, le DevOps, c'est quand même quelque chose qui est très aussi survendu, on va dire, par certaines boîtes comme étant un peu magique. Donc, si on n'a pas de KPI pour mesurer et dire objectivement, il y a une amélioration sur ces axes que je voulais améliorer, souvent, il y aura une déception qui est juste une déception, en fait, parce que la personne a survendu le truc, quoi.
Je te remercie parce que vraiment quand moi j'accompagne des équipes pour passer au DevOps, je me base toujours sur des mesures et je demande aux clients quelles mesures on va prendre. Enfin, on discute ensemble et on les prend avant, pendant et jusqu'à la fin, quoi, pour voir comment est-ce qu'on évolue. Parce que si on mesure pas, comme on le sait, on peut pas voir s'il y a une amélioration. C'est hyper important de mesurer les choses. Et pas que les choses techniques, hein, pas que le time to market, le temps qu'on prend pour déployer, la mesure du bien-être des équipes, le turnover, tout ça peut faire partie des mesures autour du DevOps, hein.
Ouais, c'est un des fondamentaux, enfin, un truc fondamental dans le DevOps. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait le besoin, parce que peut-être qu'il y a aussi un côté hype, là, on a envie de faire du DevOps, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Après, je ne suis pas sûr que toutes les applications aient forcément besoin de passer dans ce mode-là, s'il n'y a pas de pression sur le time to market, des choses comme ça. Donc voilà, peut-être aussi une des raisons qui fait que ça échoue.
C'est vrai, même si au final, pour moi, le DevOps, c'est vraiment un aspect communication et ça, c'est jamais perdu, on va dire. Moi, j'ai travaillé dans un contexte, par exemple, où il y avait des équipes, on n'avait pas le droit de les contacter. En fait, voilà, on n'avait pas le droit de contacter ces équipes, de leur envoyer des mails, etc. Et en fait, c'est comme je disais, c'est des équipes qui se planquaient derrière des process, derrière des systèmes de tickets, etc. Donc, en fait, c'était pas DevOps, mais c'est it's not a bug, tu vois, it's a feature. Pour eux, c'était voulu, c'était le but, c'était se cacher derrière. Voilà, une abstraction, donc des tickets ou autres, se protéger avec des interdictions au niveau vraiment des équipes de se communiquer. Et là, le DevOps, c'était inapplicable. Et je veux dire, et c'était par design, c'est-à-dire c'était volontaire et ça causait ben, forcément des problèmes énormes. Et ça, c'est très très dur à casser.
Ce que tu
Ouais,
attends, juste ce
pardon.
que tu dis, ça me rappelle des contextes dans lesquels j'ai évolué. C'est très utile et ce serait intéressant un jour de faire une émission sur utile versus DevOps ou pas, hein, parce que les deux peuvent être, à mon avis, complémentaires, mais ça dépend comment tu appliques l'utile aussi.
Pour le
Vas-y,
coup,
René.
juste, moi j'ai déjà travaillé
Ah.
dans du DevOps avec de l'ITIL et ça pouvait marcher. Hein.
Ouais, je pense que ça peut marcher. Après, souvent, c'est aussi des problématiques de contrat. Voilà, je pense que parfois le contrat stipule que l'interface pour discuter avec les équipes qui sont derrière, c'est de passer par le helpdesk machin et un ticket, quoi. Et c'est vrai que c'est assez pénible.
Bah, peut-être que justement,
Enfin.
quand tu fais une transition DevOps, tu dois aussi faire évoluer tes contrats.
Ouais, bien sûr. Après, je dis pas qu'il faut pas un ticket pour parler à une équipe et qu'il faut pas tracer certaines choses, mais ce qu'il y a, c'est que des fois, c'est un peu trop renforcé ou, entre guillemets, le moyen d'échanger reste dans le système de ticketing, quoi. Et du coup, ça implique tous les problèmes dont Mathieu parlait de communication, qui sont parfois assez extrêmes.
Eh ben, merci pour vos témoignages. On va pouvoir passer à la suite. Mais avant de passer à la news de Mathieu, je voudrais rappeler à nos auditeurs et auditrices qu'ils peuvent soutenir le podcast en faisant un petit don si le podcast leur plaît sur Liberapay. Le lien est en description et ça nous aidera à payer les outils et l'infrastructure qu'on utilise.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et Mathieu va nous parler de jeux
Oui,
vidéo.
alors je vais vous parler de Roblox, qui est une entreprise de jeux vidéo. Alors je ne suis pas joueur personnellement, donc je connais juste de nom. Et ce qui est intéressant avec Roblox, c'est qu'ils ont eu un énorme downtime sur leur infrastructure récemment, donc 73 heures de downtime, ce qui est quand même assez énorme. Hein. On est à 3, voilà, à 3 jours de downtime quand même, complet. Donc imaginez ça sur une grosse plateforme de jeux vidéo, ou même sur n'importe quel gros site, c'est un peu la catastrophe. Et ce qui est intéressant, je les remercie vraiment sur ça, c'est qu'ils ont fait un post-mortem. Donc ça demande déjà beaucoup de courage, parce que déjà quand on a un downtime, bah, c'est compliqué niveau communication, etc. Et le post-mortem, et ben, on est obligé d'expliquer qu'est-ce qu'on a fait mal. Donc on sait qu'on peut éventuellement être critiqué, etc. Mais c'est pour moi très intéressant, les post-mortems de tout type, hein, je veux dire de Roblox, mais même d'autres entreprises. C'est comme ça qu'on apprend, et c'est vraiment très transparent de leur part, je veux dire, c'est vraiment très cool. Et donc, merci à eux en tout cas pour ce post-mortem. C'est parce que des problèmes d'infrastructure, on en a tous. et on apprend beaucoup en fait des erreurs des autres. Donc c'est toujours bien de lire les post-mortems quand il y a des gros problèmes comme ça, parce que ça peut nous arriver aussi. On se croit protégé, mais un jour ou l'autre, on sait que ça peut nous arriver aussi des problèmes. Donc étudier ça, c'est intéressant. Donc Roblox utilise Consul, et pas que Consul d'ailleurs, ils utilisent toute la stack HashiCorp, Nomad, Consul, Vault, etc. Donc Nomad qui est une alternative à Kubernetes, on va dire, pour gérer des conteneurs. C'est une très très grosse infrastructure, donc ils parlent dans l'article de 18 000 serveurs avec 170 000 conteneurs, donc on est sur une très 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 grosse infra. Et donc c'est tombé, malheureusement, à cause de Consul. Alors... il y a eu déjà, il faut savoir que Consul, c'était vraiment un single point of failure dans leur architecture, et que Consul gère Nomad s'appuie sur Consul. Donc si Consul n'est plus là, les services ne peuvent plus parler entre eux, les nouveaux services ne peuvent plus démarrer, les nouveaux conteneurs ne peuvent plus démarrer, etc. Donc la plateforme est paralysée. De plus, le monitoring s'appuie également sur Consul pour fonctionner. Donc en perdant Consul, ils ont perdu leur plateforme de monitoring. Ce qui est aussi un problème, donc ça montre aussi, j'en reparlerai tout à l'heure, que les dépendances entre services, c'est vraiment quelque chose de critique, et il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Donc voilà, ils ont passé, je vais pas faire tout le résumé de l'article qui est assez long, mais ils ont passé beaucoup de temps à investiguer, ils ont fait beaucoup d'hypothèses, et en fait le problème venait d'un bug dans Consul, enfin un problème de performance dans Consul, dans le code de Consul lui-même. Parce que Roblox utilisait une fonctionnalité de Consul, une fonctionnalité de streaming qui permettait d'alléger la charge réseau de Consul. C'était une fonctionnalité qu'ils activaient petit à petit sur leur service, et un jour ils l'ont activé sur un service critique. Mais le problème n'est pas arrivé tout de suite, il est arrivé un jour après. Et donc ils ont mis du temps à se dire ah tiens, oui, c'était ce problème-là. Enfin voilà, des fois il y a des. C'est vrai que ça arrive parfois que les problèmes surviennent 1, 2, 3, voire plus une semaine après l'activation d'une fonctionnalité. Et donc, et là, les équipes sont surtout dans l'urgence, ne pensent plus à ce qui a été fait avant. Et là, ça a été un peu le cas. Ils ont mis du temps à identifier ce problème. Surtout qu'ils avaient donc des problèmes de performance. En fait, c'était ça le problème de base, c'est qu'ils n'arrivaient plus à rallumer Consul, parce que dès qu'ils le rallumaient, ils tombaient au niveau perf. Ils ont doublé la capacité de leur machine. Ils sont passés de 64 à 128 CPU. Donc, ils ont doublé vraiment la capacité de toute la machine Consul. Et en fait, le problème était pire. Et c'est ce qui les a forcément bien embêtés, parce que c'est vous avez un problème de perf, vous rajoutez de la perf, vous rajoutez du CPU, et en fait le problème est encore pire. Et c'est parce qu'en fait il y avait un bug, comme j'ai dit dans Consul, de contention, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'événements, etc. Et donc il y avait un channel en Go finalement qui était surchargé, donc il y avait un blocage. Et en fait en rajoutant de la capa, et ben ça surchargeait en fait ce channel encore plus. C'est-à-dire que voilà, c'était imaginez un peu, je sais pas, une rivière, mettons, vous pouvez faire passer, je sais pas, 10 mètres cubes par seconde dedans, et vous ouvrez les vannes au-dessus, quoi, c'est un peu ça, rajouter de la capacité finalement. Et ben non, ça passe toujours pas, c'est encore pire. Vous avez vraiment inondé encore plus le reste, parce que ben, ça passe pas. Donc ils ont finalement réussi à résoudre le problème. Ils avaient aussi un problème sur BoltDB, qui est une base de données utilisée en interne par Consul. Et avec du temps, ils ont réussi à relancer les choses, etc. Donc je vous laisse voir l'article pour avoir plus de détails. Mais les points intéressants, déjà, c'est, comme j'ai dit, le fait que Consul était vraiment un SPOF, avec le monitoring qui s'appuyait sur Consul. Et donc ça, c'est, comme j'ai dit, il faut toujours réfléchir, je pense, dans une infra aux dépendances entre services, et savoir si je perds ce service-là, est-ce que je perds celui-là, surtout pour le monitoring. Et j'irai même plus loin, même pour relancer votre plateforme. Parce que parfois, moi, j'ai déjà vu des cas où on a un service A qui s'appuie sur un service B, et avec le temps, le service B s'appuie également sur le service A. Donc, il y a une dépendance cyclique, et le jour où votre infra, elle tombe, vous ne pouvez plus la remonter, parce qu'en fait, il y a des services qui se dépendent entre eux. Et c'était jamais arrivé dans le passé que les deux soient dans le même temps. Donc, toujours à faire attention aux dépendances, toujours faire attention au monitoring, avoir du monitoring externe, on va dire, hors de l'infrastructure principale. Bien connaître sa stack, je pense que c'est important, et d'ailleurs c'est quelque chose qui a aussi intéressant dans l'article, c'est qu'en fait on se rend compte qu'on s'appuie tous sur des technologies comme Consul ou Kubernetes ou Vault, etc., etc. Et finalement, qu'est-ce qui se passe quand on a un bug dans cette brique-là ? C'est-à-dire, parce que c'est pas des briques qu'on maintient nous directement, on n'est pas forcément familier avec le code, etc. Donc c'est là aussi où les contrats de support ou autres peuvent aider. Je pense que Roblox a un contrat de support avec HashiCorp, parce qu'il parle d'investigation avec les équipes d'ingénieurs d'HashiCorp, etc. Donc je présume qu'il y a un contrat derrière, Mais pour des grosses infras, c'est là qu'on voit aussi ça a du sens d'avoir un éditeur derrière. Parce que quand c'est le feu, on est bien content d'avoir quelqu'un qui connaît la code base pour investiguer. Et comme je l'ai dit, merci encore à merci à eux pour le post-mortem. C'est vraiment super. Et voilà, j'espère que si un jour j'ai un gros downtime sur l'infrastructure que je gère, j'aurai l'autorisation de faire un post-mortem. Parce que on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce genre d'articles. Et voilà, donc je vais vous laisser réagir. Je ne sais pas qui veut commencer.
Allez, ouais, vas-y.
Je peux dire deux mots.
Non, vas-y, tu parles souvent après.
Non, pas de souci. Non, je voulais dire deux mots. C'est effectivement, enfin, j'espère pour eux qu'ils avaient un contrat de support avec HashiCorp, parce que quand on voit la taille de l'infra, ça me paraît être du suicide de ne pas avoir un contrat de support. Mais après, les gens sont libres. Et effectivement, dans ce cas-là, ça a quand même tout son sens. Et c'est pas. On revient à des choses dont on a pu parler sur l'open source. Il faut des mainteneurs sur ce genre de produit-là. Et donc, il faut des contributeurs et des gens qui souscrivent à du support pour faire vivre le développement et les corrections potentielles sur ces outils-là. Effectivement, après, il est intéressant. Je l'ai un peu survolé l'article, mais je pense que je vais me replonger dedans parce qu'il est vraiment intéressant. Effectivement, c'est vrai qu'une des difficultés, souvent ce qui se passe, c'est qu'on change un truc, ça tombe, et là, ça arrive un peu a posteriori, délayé dans le temps. Et donc, ça, ouais, je pense que c'est vraiment une difficulté supplémentaire pour savoir d'où venait le problème. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même pas de chance pour eux. Et voilà, les quelques petits commentaires que je pouvais faire. Je te laisse ta main, Damien.
Ouais, du coup, c'est vrai que je m'imaginais pas qu'ils avaient une si grosse infrastructure. J'en avais entendu parler dans un. Je joue pas du tout mais à ce jeu-là, mais j'en ai entendu parler dans un autre podcast de jeux vidéo. Apparemment, ça a quand même un gros succès. Donc déjà, c'est clair que c'est pas tous les jours qu'on a un Reatex sur une infrastructure aussi grosse. Effectivement, après, je vous rejoins sur tout le reste. Moi, ce que j'aimerais bien creuser un peu dans cette histoire, c'est comment ils ont géré en fait la communication externe déjà. Parce que 73 heures downtime, tu commences déjà à avoir un peu des soucis, on va dire, de com. Et surtout, comment en interne, je serais curieux de voir comment ils ont géré en fait l'investigation. Parce que c'est vrai que quand on investigue sur 6 heures, sur de 1 heure, on va dire, à 7 heures, souvent c'est la même équipe qui investigue, d'autres personnes qui se rajoutent, mais il y a une continuité. Mais là, sur 73 heures, il y a vraiment dû y avoir des roulements, il y a eu d'avoir plusieurs personnes qui s'organisent. Donc je serais vraiment curieux, vraiment d'un point de vue plus organisationnel et gestion de crise, de voir comment c'est organisé sur autour d'une war room ou des choses comme ça. Mais pour en avoir fait une fois, une war room, au bout de 2h30, j'ai une migraine, quoi. Donc là, je serais vraiment intéressé, côté humain, voir comment ça a été géré, cet aspect-là, sur un incident si long.
Justement, est-ce que tu peux nous dire en deux mots ce que c'est qu'une war room?
Alors, je vais essayer de pas me tromper, mais du coup, une war room, généralement, c'est quand vous avez des gros incidents qui potentiellement peuvent impliquer plusieurs dépendances, comme on a dit, c'est important toujours d'identifier ces dépendances, on répétera jamais assez. Vous allez créer ce qu'on appelle une war room, donc ça peut être virtuel ou ça peut être physique, dans les data centers, souvent vous en avez une d'ailleurs, et dans laquelle vous allez vous regrouper avec les différents experts techniques des parties prenantes et potentiellement aussi, en général des personnes qui sont de la communication, pour investiguer le problème, pour investiguer aussi sur les solutions de contournement possible s'il y a besoin, et pouvoir communiquer clairement en fait un statut le plus directement possible sans devoir passer par des mails à machin, etc. L'idée étant comme le DevOps, de faciliter la communication. Si on est tous dans la même pièce, on peut facilement partager l'information, partager son écran ou autre. Donc c'est un peu le but des war rooms, c'est d'améliorer en efficacité ça en fait. Je sais pas si j'oublie quelque chose ou si c'est assez clair comme explication.
C'est l'important, c'est vrai que le livre SRE de Google a toute une partie sur la gestion d'incidents qui est très intéressante, notamment, comme tu l'as dit, un peu la façon de s'organiser, le fait d'avoir un incident commander, comme ils disent, donc vraiment un commandant pendant l'incident qui va être, on va dire, qui va organiser la chose pour pas que ça soit le bazar dans la war room ou autre. Enfin, sur la gestion d'incidents, c'est un vrai sujet, hein, donc c'est un peu hors sujet ici, mais c'est vrai que c'est assez passionnant. Il y a vraiment le côté organisationnel, en effet, dans la gestion d'incidents qui est très, très intéressante.
Après, ce que tu disais, ça fait aussi partie de la gestion de crise, de savoir gérer les ressources humaines, entre guillemets, et éviter que les gens se crament. Et parfois, dans une bonne gestion de crise, c'est important de même si des fois c'est des gens qui donnent vraiment, qui sont très intéressants dans leurs connaissances techniques, etc. Faut parfois, entre guillemets, savoir leur dire non, non, mais là, faut vraiment que tu arrêtes pour aller te reposer parce que sinon, tu tiendras pas sur la longueur, quoi. Donc, ouais, pour moi, c'est important aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait ce rôle-là en cas de crise.
Ouais, c'est pour ça que la partie com, moi je trouve c'est la plus intéressante dans les cas-là, parce que souvent c'est le plus compliqué en cas de crise en fait, je trouve, que toutes les informations puissent se croiser sans qu'il y ait trop d'informations inutiles, qu'on puisse avoir une vision claire de ce qu'on va faire, des objectifs, et après savoir la communiquer, on va dire, de la bonne manière aux clients ou en tout cas aux personnes impactées, c'est comment dire, tout un art.
Oui, éviter la panique aussi, enfin, pas que tout le monde court partout
Oui,
virtuellement, on
c'est
va
ça.
dire. Parce que voilà, enfin, c'est la crise, etc. Avec des gens qui ont rien à voir avec la choucroute, qui débarquent des fois et disent, je sais pas, c'est classique, c'est le commercial ou je sais pas quoi qui arrive et dit, qui peut mettre la pression sans le vouloir, mais voilà, ça met la pression à toute l'entreprise et ça s'organise, quoi.
C'est aussi.
Bah, si je peux me permettre justement de donner un petit peu mon ressenti, mon expérience. Donc, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais former une cellule de crise en désignant une équipe et bien identifier les rôles de chacun, avoir un coordinateur en effet, et puis pour pouvoir se séparer un petit peu et se prendre un œil, enfin prendre du recul par rapport à ce qui est en train de se passer, dédier peut-être une personne dans l'équipe à toi, tu fais pas le truc qui est chaud. T'essayes d'avoir le recul, de voir ce qui se passe et d'apporter des réponses aux gens qui viennent pour pas que les gens viennent en fait interpeller les gens qui sont en train de travailler, mais vraiment aient une interface avec la cellule de crise et l'extérieur. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner pour éviter justement d'avoir, parce que moi je l'ai vécu trop souvent, des gens qui viennent me taper sur l'épaule alors que je suis en plein incident en tapant des commandes Unix un peu tendues. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben attends là. Tu fais une bêtise et puis c'est parti quoi. Ton incident, il est pire que tout.
C'est un peu le but aussi des war rooms et des choses comme ça, c'est de s'isoler pour pas que tout le monde puisse rentrer et qu'il y ait une personne qui gère l'incident manager. Tu es une personne qui gère plus la com, on va dire, envers les équipes non tech. C'est vraiment de pouvoir avoir des personnes qui vont faire interface, on va dire, et d'éviter ouais, que tout le monde rentre pour tout et rien, quoi.
Et surtout, prenez l'habitude de communiquer de manière régulière parce que vous êtes dedans. Votre équipe, elle est dedans, mais l'extérieur ne sait pas ce qui se passe. Justement, si ce genre d'expérience vous intéresse et ce genre de retour, je fais un petit peu d'auto-promo parce qu'avec René, on va lancer un live tous les 2 mois qui va s'appeler Raconte-nous tes gros échecs, qui va être une libre antenne. Donc, vous pourrez intervenir, toi qui nous écoutes en tant que podcast, si tu as des histoires croustillantes ou des retours d'expérience à nous donner, tu pourras venir et nous les raconter directement en live. Ça se passe sur la chaîne YouTube. René va nous parler et va nous miner le moral, je crois.
Oh, je vais essayer de pas trop vous casser le moral. Oui, je voulais partir d'un sujet. Enfin, ça rejoint un petit peu les épisodes qu'on a fait sur l'écologie, etc. Et ben, j'ai particulièrement apprécié un des derniers épisodes de Thinkerview où une personne qui est invitée, qui s'appelle Aurore Stéphan, qui est géologue et s'intéresse en fait aux différents matériaux. Et alors le titre de l'épisode c'est l'effondrement, le point critique, avec un point d'interrogation à la fin. Je pense, enfin, je suis pas sûr que, enfin, ce titre, voilà, n'est pas forcément le mieux choisi. En tout cas, moi j'ai été passionné parce que en fait derrière, bah, alors l'épisode est très long. L'épisode dure entre guillemets 3 heures. Mais c'est passionnant parce que en fait on s'est orienté sur vraiment tous les matériaux qui sont utilisés dans nos usages quotidiens, enfin pour tous nos objets, etc. Et les conséquences qu'il y a dans les mines en fonction, ben, de la pression qu'on met là-dessus. Et donc il y a un bon passage sur la voiture électrique, sur le numérique. Et on entend beaucoup parler du réchauffement climatique. Voilà. Et puis ben, on oublie qu'il n'y a pas forcément que ce problème-là, et notamment la pression sur les métaux. Et voilà, cet épisode est vraiment passionnant, et je n'en dis pas forcément plus parce que vraiment, je pense qu'il faut vraiment l'écouter, et j'ai peur de dire aussi des bêtises, mais voilà, j'encourage tout le monde à aller un petit peu écouter. Écouter cet épisode pour un petit peu réaliser aussi l'impact, entre guillemets, dans ce domaine-là de nos choix de vie, en fait.
Ouais, c'est le moment de rappeler aussi qu'on a fait une série sur l'écologie de manière globale en 3 épisodes. Donc, vous pouvez aller voir la playlist dédiée. C'est vrai que tu fais bien de le rappeler, on a tendance à l'oublier, mais la pression sur les métaux rares est telle que moi je pense que ça va commencer par là, ce qui explique aussi les pénuries qu'on voit depuis quelques temps, et ça va aller en s'accélérant jusqu'au jour où on n'aura plus certains métaux rares, qu'on pourra plus les extraire ou que ça coûtera trop cher de les extraire, et donc il faudra faire avec ce qu'on a. Là peut-être qu'on arrêtera la course.
Alors, elle débunk juste. Alors, je suis désolé, mais un des débunks, c'est que les métaux rares portent très mal leur nom. C'est-à-dire que pour certains, ils sont pas du tout rares, en fait. Ils sont disponibles en grande quantité. Et finalement, c'est pas. Enfin, à suivre l'émission, mais finalement, c'est pas forcément ces métaux-là qui vont poser le plus de problèmes. C'est plus des métaux qu'on utilise plus couramment, genre le cuivre, l'aluminium, voilà. Et donc, il y a une grosse pression, par exemple, sur le cuivre. Et voilà, après il y a des notions de concentration, parce que en fait pour pouvoir extraire du cuivre ou d'autres matériaux qui sont dans des concentrations relativement basses, il faut énormément d'énergie et énormément de matériel pour brasser des quantités et des volumes de terre, en fait, hein, de roche pour les broyer, en faire de la farine, et ça devient, on va dire, de ce volume, il y a tout un tas de problèmes qui apparaissent, notamment le stockage des déchets suite à tous ces traitements-là, et voilà, donc c'est voilà, du coup, voilà, j'en dis pas plus parce que vraiment je pense qu'il faut écouter cet épisode parce que ça apporte plein de... Enfin, moi, j'ai appris beaucoup de choses, en tout cas.
Oui, alors, j'aurais peut-être dû parler des terres rares et pas des métaux rares, tu as raison. Mais le fait qu'il va y avoir des pénuries sur les matières premières, ça c'est évident. Et il y en a plein dans plein de composants. Et comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça, justement? Ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose. Et vous, quel est votre avis là-dessus, Mathieu?
J'ai pas vu l'épisode. Mais comme tu dis, des pénuries, on en voit déjà, hein. Pas forcément que sur les métaux d'ailleurs. Enfin, en ce moment, c'est tendu dans beaucoup de secteurs. Après, je connais pas assez le sujet pour me prononcer, mais je présume aussi sur les mines, il y a tout l'aspect écologique, comme tu l'as dit, René, traitement des déchets et puis l'impact écologique d'une mine. On le voit dans certains pays comme la Chine ou autre, où c'est assez impressionnant, enfin dire dans le mauvais sens du terme. Mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur, c'est dur à dire. Les pénuries sont aussi peut-être dures à prévoir. Moi, quand j'étais gosse, on disait il n'y aura plus de pétrole en 2020. Bon, finalement, c'est pas trop ça. Je connais pas assez le sujet pour prononcer, pour être honnête. Mais dans tous les cas, oui, il faut qu'on fasse aussi attention à nos manières de consommer, ça c'est sûr. C'est quelque chose qu'on verra de... Enfin, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi, hein, de la part des consommateurs. Enfin, peut-être pas, en fait, je sais pas, j'ai un doute, ça dépend, sur le matériel, la réutilisation du matériel, combien de temps on peut, au bout de combien de temps on change de téléphone, d'ordinateur, etc. C'est un vrai sujet société, en fait, ça dépasse vraiment le cadre de la tech, pour moi. Et voilà.
Et pour être honnête, je sais pas trop quoi rajouter, parce que ça va forcément sortir du truc, j'ai pas vu l'épisode non plus. C'est vrai que toutes ces choses-là, moi, perso, j'ai peut-être pas une vision joyeuse des choses, mais moi, je pense qu'à terme, que ce soit des pénuries ou des mouvements de population suite au réchauffement et d'autres choses, ça va juste à un moment créer des conflits ou des choses comme ça, et ça va se réguler comme ça. Mais je crois pas, en tout cas, en une histoire magique qui finit comme dans un Disney, quoi, à la fin. Je crois plus à la version Bambi-Meur dès le début, tu vois. Mais bon. C'est
sûr qu'on va aller vers de plus en plus de conflits, sauf si on se met à faire de la collaboration entre pays, mais bon, j'y crois pas trop vu les gouvernants qu'on a.
On n'a pas collaboré avec nous-mêmes, donc collaborer à plusieurs, ça te complique. Ouais. Non, mais après.
Peut-être qu'il faudrait qu'on a.
Après, j'ai.
J'allais dire, peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne le DevOps à nos dirigeants, mais.
Non, après, ben, j'ai pas une vision très optimiste des choses, mais bon, faut quand même se dire c'est pas très marrant ce qu'on explique, mais bon, faut se dire aussi qu'il y a plein de choses qu'on sait pas, il y a plein de choses qui vont aussi avancer qu'on sait pas non plus. Donc, faut aussi avoir de l'espoir et se dire qu'il y a peut-être, des nouvelles avancées, des nouvelles manières de voir les choses qui vont aider à sauver, on va dire, ce qu'on peut, en tout cas, de l'état actuel, dans l'état actuel des choses.
Rien qu'être au pied du mur.
On compte tous sur le métaverse, ouais, pour nous sauver.
Ça va, sans la matrice.
On vivra dans un métaverse et ouais. C'est bon.
Non, mais il y a aussi le fait que si on est au pied du mur, enfin, je sais pas, des fois, j'ai l'impression que l'humanité ne sait travailler que si elle est, comme je dis, au pied du mur, on va dire, c'est-à-dire... On va rien faire. Ah, mais... Et puis d'un coup, on va dire, OK, là, dans 2 ans, c'est mort. Vite, il faut faire quelque chose, vite. Et là, il y aura... ça va être la réaction dans l'urgence, malheureusement. On aura perdu du temps, mais bon, est-ce que ça suffira? Je ne sais pas.
Ouais, mais c'est un peu comme mes étudiants, tu vois. C'est le projet, je commence le week-end avant de le rendre.
C'est exactement ça.
C'est exactement le même principe.
À l'échelle de la planète.
Ouais, alors j'espère qu'il y a quand même des gens qui font des recherches et qui se posent des questions, parce que sinon on va avoir du mal à... On a déjà.
Ouais, sinon ça fera.
Je vous propose qu'on passe.
Juste pour dire que Don't Look Up et on pourra capturer des, mais voilà, faire comme dans le film, capturer un astéroïde pour exploiter les métaux, et puis finalement ça se retournera contre nous. Enfin, j'ai bien aimé ce film aussi, pour ça, sur le sujet.
ce sujet-là est un petit peu évoqué dans l'épisode, parce qu'effectivement il y a des gens qui pensent éventuellement aller chercher des métaux sur des astéroïdes ou dans des fonds marins très profonds. Et ouais. Bon, je vous laisse aller voir l'épisode, la personne répond à ce qu'elle pense de ce type d'exploitation. Voilà, j'en dis pas plus. Je veux pas spoiler.
Alors, je vous propose qu'on passe à la section que tout le monde attend, la section des outils. Et on en a pas mal, puisque on est pas mal à avoir proposé des outils et autres petits liens aujourd'hui. Alors, on va commencer par René.
Oui, alors le premier, c'est... en fait, j'ai presque honte de ne pas l'avoir connu avant. Et en fait, c'est un outil qui s'appelle Teammate. Et donc, il s'installe, il y a un client qui s'installe, c'est disponible sur toutes les bonnes distributions. Et ça permet simplement de partager une session SSH. Ou un shell, hein, en fait. C'est plus ou moins basé sur Tmux. Et du coup, on lance l'outil. Il nous donne des liens de type plusieurs liens, en fait. Il y a des liens où on peut seulement faire du read-only, donc consulter, voir ce que la personne va faire. Et il y a aussi des liens où on peut... en mode read-write, où la personne, donc on peut collaborer dans le même terminal. Et du coup, il y a aussi 2 liens. Il y a un lien qui est disponible donc via le web, donc la personne peut voir ce qui se fait à travers un navigateur ou directement un SSH. Et j'ai trouvé que c'était super facile à utiliser et très pratique. Donc, je sais pas si vous connaissiez, mais. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à jeter un petit coup d'œil.
Alors oui, je connaissais, ça fait longtemps que je suis un utilisateur de Teammate. Ça s'installe très bien avec un petit paquet. Et ça se lance en une ligne de commande et c'est hyper pratique, comme tu le dis, pour faire du pair programming à distance ou à côté. Parce que du coup, on a 2 claviers directement, 2 écrans, mais un seul terminal finalement, puisque les 2 claviers vont interagir dans le même terminal. C'est un super outil que je vous conseille.
C'est vrai que l'outil marche bien, j'ai essayé il y a quelques années, alors c'est vrai que maintenant avec tous les outils de meeting et d'autres, notamment nous on utilise beaucoup les Oodle sur Slack, donc on a tendance à directement utiliser les fonctionnalités déjà incluses, et au final c'est vrai que ces outils-là j'ai tendance un peu maintenant à les oublier, à plus les utiliser, mais ça reste un outil assez solide.
Ça a l'air intéressant, mais moi j'aurais un peu peur en fait qu'un service externe... je sais pas, là, je lis un peu la doc, je connaissais pas, mais c'est ça, teammate.io, c'est-à-dire qu'ils ont accès à ce que je tape, éventuellement. Moi, tous les trucs un peu comme ça, pareil pour Gitpod, pour les IDE en ligne, etc., en fait, je manque de confiance encore. Je sais pas. C'est peut-être de la paranoïa, mais. Voilà.
Après, oui, ça dépend ce que tu fais. Hein. Je pense que, attention, oui, si tu travailles sur des sujets hyper confidentiels, voilà, c'est peut-être pas l'outil à utiliser. Après, voilà, dans mon cas, c'est souvent pour partager du code qui est open source. Donc, voilà, en termes de confidentialité, j'ai pas de soucis, quoi.
Alors, moi, je vais vous parler d'un dépôt Awesome, parce qu'on en a parlé de plein. Et ben, je vais vous parler aujourd'hui de Awesome Sysadmin, qui est un outil qui va vous proposer plein de ressources pour les administrateurs système. On avait parlé déjà d'Awesome, je ne sais plus lequel, mais celui-là va vous proposer plein d'outils pour gérer votre système ou votre cloud, etc. Donc, vous aurez plein de choses à aller voir. Je ne sais pas si vous connaissiez celui-là en particulier de Awesome.
Je le connaissais.
Non. Moi, non.
C'est toujours intéressant.
Eh ben, je vous laisse. Bah, aller.
Désolé. Vas-y. Non, je disais, c'est toujours intéressant, les repos, enfin, les trucs à Awesome. Après, c'est toujours pareil, c'est dur de faire le tri dedans. Moi, c'est un peu c'est-à-dire qu'il faut vraiment voir outil par outil ce qui est maintenu. Enfin, je vois des outils dedans qui sont plus maintenus, par exemple, hein, que je connais de nom, des choses comme ça. Donc, toujours bien regarder ensuite avec. Parce que c'est des listes où les gens vont ajouter, mais pas supprimer, en fait. Donc,
c'est de prendre. Ouais, c'est toujours un peu. Toujours un peu compliqué effectivement sur les repos comme ça, et je trouve que c'est un peu compliqué de moi. Faut avoir le réflexe en fait quand on cherche un outil d'aller voir dedans, je trouve. Moi j'ai pas du tout le réflexe là pour qu'on cherche un outil. Bah du coup moi je vais enchaîner, ouais vas-y.
Moi je disais juste qu'il n'y a pas mes outils dedans, donc voilà, je suis triste.
Ah bah oui.
Mais mes outils moi.
Voilà. Tu peux les ajouter. C'est tu peux faire une énergie.
Voilà, pour qu'ils rajoutent du bruit. Comme ça quand ils seront plus maintenus, et ben voilà. C'est exactement ce que je disais.
Bah c'est ça, mais après tu ouvres une PR pour remove chacune des outils qui sont dépréciés.
C'est ça.
Puis après, tu as 6 mois que la personne qui a créé ça il y a 10 ans et qu'il a oublié dans un coin te répondre. Je troll à moitié. Du coup, moi je voulais vous parler d'un outil qui est ASDF et de pas mal d'outils que j'utilise. Donc ASDF, c'est un système qui permet en fait de gérer le packaging en fait et l'installation de tous nos petits outils Go, notamment Terraform, il y a Helm, toutes ces choses-là, en fait, ils permettent de gérer l'installation, parce que, en général, on prend directement le Go, on passe pas forcément par des packages de distribution. Donc, c'est bien utile de pouvoir les gérer comme ça. Et je voulais vous parler de plein de petits outils qu'il y a autour et que j'utilise, et au final, j'ai écrit un post sur mon blog, un article sur mon blog il y a pas longtemps. Donc, je vous mettrai le lien en commentaire et je vous parle d'ASDF et de plein de petits outils que j'utilise au quotidien et qui m'ont un peu changé ma manière de travailler. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps et beaucoup de productivité personnellement. Donc, ça peut toujours vous être utile. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des idées d'amélioration ou d'autres outils là-dedans qui vous paraissent mieux ou que vous aimez bien.
Ouais, ASDF, c'est un super outil. Je suis désolé, René, du coup, je parle en premier. ASDF, c'est un super outil que j'utilise aussi, justement pour Terraform. Et je sais pas si tu l'as dit, Damir, mais il permet aussi de gérer la version du binaire qu'on utilise en fonction du projet, ce qui est pas mal, puisque dans chaque projet, on peut avoir un petit fichier texte où on dit à ASDF, voilà, tu utilises telle version dans ce projet-là, telle version dans cet autre projet. Donc c'est, on peut comme
c'est
ça.
C'est ce que j'entendais par gestion en fait de Redis. Finalement, on peut gérer comme ça. Il y a un fichier qui s'appelle .toolversion, il me semble, .tool.version, qui vous permet de définir l'ensemble de la liste des projets. Et ce que je dis dans mon article, c'est globalement ça. On essaie de le mettre dans chaque projet où je travaille, et on va mettre du coup dans un diramph qui permet d'exécuter en fait quand on rentre dans le directory. Il exécute en fait à SDF pour récupérer les bonnes versions d'outils. Comme ça, vous rentrez dans un repo, vous avez tout de suite tous les mêmes outils dans les mêmes versions, et ça vous évite plein de conflits. Bref, j'en parle un peu plus dans l'article, mais c'est vraiment une manière de faire qui vous fait gagner beaucoup de temps et qui évite pas mal de problèmes de « Ah, j'ai exécuté ça avec la nouvelle version, mais c'était pas encore supporté. »
Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'ai lu l'article de Damir et je confirme qu'il y a des petites pépites là-dedans. Et moi, je connaissais pas Diran, justement, et je trouvais qu'il était assez cool.
Eh ben René, tu vas nous parler d'un autre petit outil.
Ouais, un petit outil aussi que j'ai découvert, encore une fois, j'ai un peu honte de l'avoir découvert sur le tard, mais c'est un petit outil en ligne, un petit éditeur sur le web pour faire. Parfois, on a besoin de faire parfois un schéma, c'est plus simple que de longs textes de commentaires dans du code. Et c'est un tout petit outil qui permet de faire un petit peu des schémas assez basiques, hein, en mode ASCII. Plus ou moins étendu, et du coup d'intégrer ça parfois dans des commentaires de code ou dans des spécifications qui sont du pur texte, là où on ne veut pas forcément importer des images ou des choses comme ça. Et du coup j'ai trouvé ça plutôt cool, et voilà, je voulais le partager.
Ouais, je confirme, c'est super cool comme petit outil, notamment moi j'utilisais beaucoup dans les README, quand il y a besoin de mettre juste des petits schémas de workflow pour expliquer où ça se place dans un workflow, etc. C'est vraiment top, enfin juste deux, trois petites boxes, et ça vous évite de vous taper un paragraphe de texte que deux personnes vont lire, et le reste des gens vont juste vous pinguer en vous disant hey, comment ça marche. C'est toujours un peu plus sympa.
Ouais, je connaissais pas, c'est vrai que c'est marrant, hein. Je suis en train de jouer avec. C'est assez fun.
Bah moi, je connaissais pas du tout, mais je suis un grand adepte de Drawio, alors je pense que ça fait pas exactement la même chose.
C'est pas le même besoin, ça c'est vraiment pour les trucs très simples et très basiques en fait, où faire un schéma, le mettre dans Git, etc., sous forme d'image, puis la sourcer dans le README, est trop chiant, on va pas se le cacher. Donc du coup, c'est pour vraiment les petites choses, je pense, plus les petits workflows, les petites vues globales, c'est plus sympa, pour comprendre une logique, plutôt qu'une infrastructure ou un projet complexe. Moi, je sais pas ce que t'en penses, René, moi je l'utilise plus comme ça.
Ah non, c'est pas le même usage. Hein. Clairement, Drawio, c'est vraiment faire des schémas, des beaux schémas, ça sort en SVG, etc. Si tu veux faire des beaux schémas AWS, ah, peut-être pas AWS pour Christophe, mais voilà, Drawio est super. Non, là, Skiflow, c'est de l'ASCII, hein, donc c'est limite de l'ASCII Arts, quoi. Donc c'est des caractères pour faire des boîtes, des choses comme ça, des choses relativement simples, c'est quand même beaucoup plus facile que de le faire dans son éditeur.
Eh ben merci. Et moi, je vais vous parler d'un site qui n'est pas un outil, mais presque, qui s'appelle Git Explorer, donc gitexplorer.com, puisque je sais que à chaque fois que j'accueille des stagiaires, et en ce moment, on a une stagiaire aussi, et je sais que Git n'est jamais très très bien... appris et très bien maîtrisé, et ben Git Explorer va vous permettre de trouver la bonne commande qu'il vous faut pour faire ce que vous voulez faire. Donc vous avez une interface avec une boîte, avec quelques boîtes de commandes, et Git Explorer va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Vous allez cliquer, je veux faire ça comme ça, et après il va vous donner la commande et l'explication de ce que ça fait derrière, et je trouve ça très très bien. En tout cas, j'ai fait quelques essais et ça donne des petites commandes sympas et des commandes que je ne savais pas faire. Comme ça permet de rechercher rapidement. Ça va me permettre aussi de parler de mon anti-siège Git, parce que j'ai créé une anti-siège Git, des commandes que j'utilise au quotidien. Vous pouvez la télécharger, le lien il est en description aussi. Et je ne sais pas si vous connaissiez Git Explorer. Bon, je ne doute pas que vous n'avez pas forcément besoin de ce genre d'outil, c'est plus pour les personnes qui commencent et débutent avec Git. Mais pour certaines commandes un peu tricky, ça peut être intéressant.
Ça a l'air. Je connaissais pas. Je viens de jeter un petit coup d'œil. Non, ça a l'air cool parce que ça a l'air pas mal complet. Le peu que j'ai vu là, parce que je viens juste de jeter un petit coup d'œil. Et là, j'ai regardé par exemple pour cloner avec des sous-modules. C'est expliqué. Donc, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, mais du coup, ça a l'air pas mal. Ouais, franchement.
Ouais, c'est un outil que j'avais vu passer sur Twitter. Alors moi, je n'utilise pas parce que quand j'ai besoin d'une commande Git, j'essaye soit de regarder dans le man et de me forcer des fois un peu pour garder l'habitude de la structuration et de où chercher, parce que c'est quand même plus rapide quand on arrive à garder l'habitude. Mais sinon, comme beaucoup de gens, hein, quand c'est vraiment un truc tricky, ça finit souvent sur Stack Overflow pour se rappeler exactement de la commande et surtout dans l'ordre quand on fait des choses un peu tricky, parce que souvent c'est ça, c'est plus l'ordre pour pas se mélanger, pas faire un historique à la con après derrière. Mais du coup, autrement non, c'est vraiment le genre de petit outil qui peut être sympa, surtout si on a du mal à se rappeler les commandes et qu'on n'est pas à l'aise avec le man.
Ouais, pareil, je connaissais pas, c'est sympa. Je pense, après, c'est un bon pense-bête, on va dire. Après, c'est vrai que ça explique pas forcément vraiment les principes. Ça n'a pas l'air d'être un tutoriel, vraiment plus un pense-bête. Donc c'est vraiment un complément pour moi de tuto, pour vraiment comprendre le principe derrière Git.
Oui, pour moi, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui va te permettre de chercher rapidement la référence et après, comme dit Damir, aller voir le manuel ou aller voir la documentation plus profonde, parce que c'est pas parce que tu connais la commande à taper que tu vas vraiment comprendre tout ce qui, tous les tenants et les aboutissants. Mais ça va te dire, en tout cas, en fonction de ce que tu veux faire, c'est plutôt par là que tu dois aller chercher. C'est comme ça que je le vois, comme une sorte d'index rapide des commandes. Une sorte d'anti-sèche interactive.
Après, oui, vu le nombre d'options, c'est clair qu'il n'y a, pas tout. Parce qu'après, bon, la référence, ça reste quand même Git SM, la documentation, et là, il y a toutes les commandes et avec toutes les options, et c'est juste un truc de fou.
Tout à fait. Eh bien, on va clôturer cet épisode. Et avant de clôturer cet épisode, je rappelle à notre auditeur qui nous écoute qu'il peut venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps. Je rappelle que c'est une communauté gratuite où on est déjà plus de 1000 à échanger, partager sur un forum. Et il y a plein de sujets. Vous confirmez que ça bouge pas mal sur le forum, n'est-ce pas ?
Effectivement, ça échange pas mal. Il y a plein de nouveaux sujets, plein de nouvelles questions. C'est intéressant.
Je vais vous laisser à tous le mot de la fin. Et on va commencer par Mathieu.
Voilà, je suis surpris maintenant. Voilà, je déteste être le premier au mot de la fin parce que voilà, maintenant il faut que je blablate, le temps de réfléchir, c'est très très dur. Non, le mot de la fin, si je dois faire un peu un résumé de ce qu'on a dit, c'est très très compliqué. Sécurisez vos accès à vos bases de données, à vos buckets S3, ça toujours. Enfin voilà, après, et puis faites attention quand vous faites de l'infra, faites du DevOps convenablement et n'achetez pas trop souvent des nouveaux téléphones. Voilà, je ferai un résumé très rapide. Mais non, c'était encore un super, je pense, un super podcast. Et surtout la partie outils, c'était super cool de découvrir des choses comme ça. Parce que même moi, j'en découvre à chaque fois.
Et Damir, quel est ton mot de la fin ?
Moi, du coup, je vais faire un peu une reconclusion sur ce que j'ai dit. Moi, je dirais que si vous faites une erreur sur un bucket ou autre, en soi, c'est pas forcément grave de faire une erreur. Après, derrière, faut assumer. Il faut aussi être capable de se dire comment je vais faire pour l'éviter plus tard. C'est l'amélioration continue. Et c'est ça le plus important. C'est pas de si t'as fait une erreur, mais si t'as su en fait trouver une solution pour plus qu'elle arrive l'erreur. Et personne vous jugera là-dessus en fait.
Merci pour ce rappel. Et René, tu as le mot de la fin de la fin.
Un petit mot de la fin pour rappeler ce que tu as dit et encourager tous les gens à venir partager leurs échecs dans nos prochaines sessions du vendredi. Et je vais terminer classiquement en espérant que cet épisode vous aura intéressé et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.